שם זה מיישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. נסום ל-8 טבת. Le 8 Tevet est un jour particulier. Il est marqué dans Megillat Ta'anit, c'est remporté dans le tour au Siman Tavkoufpé, que c'est le jour, c'est un jour où certains jeûnent. Et lui, Yamim Shira Baem Tsarot Lavoteno Vero Ilitanot Baem, nous dit le Shulchan Aruch. Et entre autres, donc, il fait la liste des jours où il convient de jeûner. Ce n'est pas une obligation, mais il est bien de jeûner. Et il cite là, ce qui est dit au sujet du 8 Tevet. C'est le jour où Talmé Améler, Ptolémée, a ordonné, ou le jour où a été conclue la traduction grecque de la Torah. Donc il est rapporté dans la Gemara, dans les Midrashim, que Ptolémée, le roi d'Alexandrie, en 3515, a demandé au Kohen Gadol, Rabbi Elazar ben Harsoum, de lui envoyer 70 sages afin qu'il lui traduise la Torah en grec. Donc, c'est rapporté dans Seder Hadorot qu'ils se sont réunis. Alors, il a réuni les sages, il les a mis chacun dans un lieu séparé, chacun seul. Et tous ces chachamim-là ont traduit de manière identique, alors qu'ils avaient des doutes, vous avez des hésitations comment traduire certains passages, tous ont traduit de la même manière. Et ça leur a pris 72 jours pour les 72 sages, ça leur a pris 72 jours pour traduire. Et le jour de la conclusion, donc c'est le 8 Tevet, ils ont fait une grande fête. Donc Ptolémée a fait une grande fête en cet honneur. Ça, tout ceci est rapporté dans la Gemara Megillah à la page 9. Et Chachamim rajoute qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le monde s'est rempli d'obscurité pendant 3 jours. Donc c'est quelque chose de tout à fait négatif. C'est traduit, la traduction de la Torah en grec est comprise comme étant quelque chose de tout à fait négatif selon la vision des Chazal. Alors qu'en fait, sur un autre aspect de cette traduction, ça va permettre Ptolémée lui-même à adhérer à la Torah, à trouver la Torah magnifique. Donc il a adhéré. Et certains disent qu'il se serait converti, mais il adhérait. Beaucoup de gens ont trouvé que les enseignements de la Torah étaient intéressants et ils les ont adoptés. Donc il y a une facette positive à cela. Et malgré tout, ça va être considéré comme étant négatif. Et c'est pour cela que dans le Megillat Ta'anit, il est dit qu'il est raouille, comme le dit le Shulchan Aruch, il est raouille, il conviendrait de jeûner ce jour-là. Alors il s'agit pour nous de comprendre quel est le sens de 3 jours. Pourquoi 3 jours d'obscurité? Quel est le sens de l'obscurité? Est-ce que c'est juste parce que les Grecs on attribue à l'Empire grec la notion d'obscurité, comme il est dit au début, Chachamim, au début de la Torah indique, souligne la présence des Grecs dans le terme Hosher, comme il est dit au début, Ve'ares aita tohu va'bohu ve'hosher al penetéum. Et c'est que ces mots-là sont interprétés par rapport aux 4 empires. Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est Paras, Hosher, c'est les Grecs, et Théom, c'est la profondeur des abîmes, c'est Malchut Romi. Et c'est seulement après qu'il est dit, Ruach Elohim merachefet al pene hamayim, et l'Esprit divin plané au-dessus des eaux, c'est Ruach Shel Mashiach. Donc on attribue aux Grecs l'obscurité. Malchut Yavan Shir Shicha Enehem Shel Israel Bigzerotea. Donc, les Grecs ont imposé toutes sortes d'interdictions et de xéros, de décrets insupportables sur les Israël. Ils leur ont obscu oh, ils ont obstrué leur vue et ils les ont placés dans le, dans l'obscurité des ténèbres. Certes, mais de l'autre côté, là, en quoi cela intervient ou impacte ou déforme l'idée que la traduction de la Torah dans les autres langues, en grec en l'occurrence ici, va être qualifiée d'obscurité. 3 jours d'obscurité, nous dit le Talmud. Pour comprendre véritablement cela, il convient de nous reporter à la paracha de la semaine, paracha de Vaïgash. Là, il est dit que Yehuda s'est avancé, Vaïgash Elav Yehuda, donc après l'épisode de la découverte de la coupe d'argent de Yosef dans le sac de Binyamin, tous les frères reviennent vers Yosef et sont là, désemparés, ne savent pas quoi dire, comme ils le disent eux-mêmes, Manomar, Manidaber, Manistadak, on ne peut pas se justifier, on n'a rien à dire. Et là, Yehuda s'avance. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'est avancé vers Yosef. Et il lui dit, je vais parler discrètement. Permets-moi de dire des mots, de m'adresser à toi, mais dans la discrétion, dans les oreilles. C'est comme si qu'il n'a plus besoin de l'interprète. Parce que toi-même, tu es comme Pharaon. Alors, quelle est cette idée de dire que Yosef, il est comme Pharaon? Alors, Yehuda lui fait comprendre. Voilà que Pharaon, il est d'usage que tous les pharaons, que de par leur fonction, ils sachent toutes les langues de la terre. De sorte qu'ils sachent parler. Donc, ce sont les ambassadeurs, ce sont eux qui vont défendre et essayer de convaincre tous les peuples de transmettre au peuple l'idée de la civilisation égyptienne. Donc les pharaons savent pertinemment parler toutes les langues. Et Yehuda dit à Yosef, et toi aussi tu es comme pharaon, donc toi aussi tu comprends. Tout ça c'est du protocole, tu mets un interprète, etc. Tout ça c'est du protocole, mais en fait tu comprends pertinemment et parfaitement notre langue. Kikamocha keparo, donc je vais te parler. Donc Yehuda sait que Yosef comprend ce qu'il dit. Il lui parle. Donc il lui fait un récapitulatif entier de ce qui s'est passé précédemment, de tous les événements. Et à la fin, Yosef ne peut pas se retenir. Il fait sortir tout le monde et se dévoile à ses frères et dit « Ani Yosef, je suis Yosef ». Et les frères sont choqués, reculent vers l'arrière, et ils n'arrivent pas à y croire. Et à un moment, Yosef leur dit, « Kipi amdabere, enechem aroot, vous voyez de vos yeux, v'ahi Benyamin, kipi amdabere, regardez, observez que c'est ma bouche qui parle, kipi medaber alechem. Je vous parle le même langage que vous. Kipi amdabere, Rachid dit, je vous parle la langue sainte, la même langue que vous. Et il est dit que quand ils se sont approchés, il y a un autre point qu'il dévoile, il leur montre qu'il est circoncis. Il est Maoul Kamotam, de la même manière qu'eux. Alors, est-ce que c'est une preuve? Alors, ces deux choses-là, est-ce que ce sont des preuves tangibles? Que Yosef est Yosef. Alors, en Égypte, il y a beaucoup de gens la majorité de la population était circoncis, comme nous l'avons vu dans les parachutes précédentes. Yosef a obligé les Égyptiens à se circoncire, donc beaucoup de gens étaient circoncis. Et d'autre part, nous avons bien vu qu'il y avait des gens qui comprenaient le Lachon HaKodesh, qui savaient parler l'hébreu. En quoi le fait de leur parler en hébreu est une preuve que lui est Yosef. Alors il leur a dit, que C'est ma bouche qui parle avec vous, qui vous parle. Le Baal HaTorim dit à ce sujet, qui piam daber alechem, gemataria be'egla arufa. C'est Egla Arufa, c'est le sujet de Halakha que Yaakov et Yosef étaient en train d'étudier au moment de leur séparation. Donc c'est un siman. Donc il y a ici un message. Alors pour véritablement comprendre cela, nous allons nous pencher sur un enseignement fondamental de ce qu'est la Torah. Quelle lumière contient la Torah? Alors il est dit dans Shir HaShirim, Elginat Egoz Yarati, je suis descendu dans le verger d'Akadosh Baruch Hu. Donc il nous a invité, Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il nous a invités dans son verger. Il a invité Am Israël dans un verger magnifique où il y a nombre d'arbres, où il y fait bon vivre, où l'endroit est ombragé, il est agréable, il y a des arbres qui sont magnifiques, et on peut goûter des fruits. Mais cet arbre, ce verger-là est appelé Ginat Egoz. C'est le verger des noix. Si nous traduisons le mot Egoz par noix ou amande. Alors, quel est le concept de... Donc, il s'agit de la Torah. La Torah est comparée à une noix, à un arbre, à un noisetier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial, la noix? Nous disent Chazal dans le Midrash, Shir HaShirim, que la noix, elle a quatre clipotes, quatre écorces. Il y a une écorce extérieure qui est immangeable, qui est amère, qui ne peut être utilisée qu'à faire de la teinture. Donc, elle est immangeable et pratiquement inutilisable. Elle ne sert qu'à faire de la couleur pour teindre les tissus, les étoffes. Puis vient une deuxième clipa, une deuxième écorce qui protège le fruit, qui est dure et qui protège le fruit. Il faut la briser, l'ouvrir pour atteindre le fruit. Puis vient une autre croum, comme une membrane qui est à l'intérieur de cette écorce, qui protège aussi, qui maintient le fruit dans l'humidité, dans le frais. Et puis vient une quatrième écorce, fine pellicule, qui peut être mangée avec le fruit. Donc il y a quatre écorces. Et ces quatre écorces-là font référence aux quatre niveaux de l'étude. Ce sont les écorces, nous disent les Chazal, qu'il faut briser pour atteindre le fruit. Donc il y a l'étude de la Torah. La Torah est comparée, l'étude de la Torah est comparée au fait de que c'est comme celui qui vient pour manger la noix. Donc il est obligé de briser les écorces, de les ouvrir, etc. Juste combien d'efforts il faut faire pour atteindre le fruit. C'est la Torah est comme si que la Torah était enveloppée d'écorces, enveloppée de d'écrans qui nous empêchaient de voir la lumière. La Torah étant la lumière ou le fruit ou le et on n'arrive pas à y pénétrer. Pour y pénétrer, pour la saisir, il faut briser tout, il faut briser, faire des ouvertures dans tous les écrans, les murailles, tout ce qui pourrait empêcher la compréhension et de faire jaillir, afin de faire jaillir la lumière. Ça, c'est le Egoz. Mais l'étude est comparée aussi à Ginnat Egoz. Et pas que le Egoz, il y a aussi la Ginnat. Ginnat s'écrit Gimel Nun Tav. À quoi cela fait référence? Alors nous disent les Mfarshim, c'est rapporté dans le Hatam Sofer, que le mot Ginat est à décomposer de la manière suivante. Le Gimel fait référence à la valeur numérique, à la Gematria. C'est-à-dire que chaque mot de Torah a une valeur numérique qui traduit le sens, qui donne un sens. La valeur numérique n'est pas juste une valeur numérique, elle doit rayonner, elle doit permettre de comprendre les choses d'une meilleure manière, d'un certain niveau. Le fait d'avoir, de comprendre, il y a des sujets qui sont obscurs. Donc, grâce à la valeur numérique, ça jette sur le sujet, sur le thème étudié, une lumière. Mais pas uniquement. Et après vient le noun. Le noun, c'est le notaricon. Notaricon, c'est-à-dire que chaque mot de Torah peut être interprété comme un acronyme. Donc, si on prend l'exemple type, c'est le mot Shemot. Le mot Shemot est décliné en acronyme. C'est l'acronyme de Shene Mikra Vehatargum. C'est la référence à la mitzvah de lire deux fois la paracha dans le texte et une fois en Targum. Donc, chaque mot peut être interprété par le notaricon, qui complète la gematria. Puis vient le tav. Le tav, c'est la temura. Temura, c'est la permutation des lettres. Il y a plusieurs systèmes de permutation des lettres. Par exemple, il y a cinq manières de prononcer les lettres. Les lettres de la Torah, Hamisha Motsot Ape. Quand on prononce les lettres, on dit les 22 lettres de l'alphabet, sont divisés en cinq parties. Il y a les lettres gutturales, les lettres palatales, les lettres linguales, les lettres des lèvres labiales et les lettres dentales. Chacune, par exemple, ces lettres gutturales, elles sont en nombre de quatre. C'est le Aleph, le Hé, le Het et le Aïn. Et bien, ces lettres-là, elles se permutent. Un Aleph peut se changer en... On peut permuter... S'il est écrit Aleph, on peut, quand il est intéressant de le faire, de le permuter, le changer en Hé ou en Het, par exemple. Il en va de même pour les lettres palatales du palais, qui sont le Yod, le Guimel, le Yod, le Kaf et le Kouf. Ces lettres-là aussi peuvent s'interchanger, etc. Il y a une autre manière plus connue, qui est le Hadbash. On fait permuter le Aleph se change en Tav, le Bet en Chine, etc. Par exemple, il y a d'autres, il y a le Aleph avec le Yud. On peut changer le Aleph, le Yud et le Kouf, par exemple. Donc c'est les dizaines, les unités, les dizaines et les centaines s'interchangent, etc. Il y a plusieurs manières de combiner les lettres. Donc Yosef leur dit, c'est ça le sens de ce que Yosef dit, regardez qui pire. Observez bien qui piam d'aber alechem. C'est ma bouche qui vous parle. C'est-à-dire que chacune de mes paroles, si vous reprenez tout ce que j'ai dit depuis le début, ce sont des paroles qui s'intègrent à la Torah. Et si mes paroles s'intègrent à la Torah, alors ils contiennent un sens profond qui peut se manifester par la gematria, la valeur numérique, par le notaricon, par donc l'acronyme, et par la tmoura, et par l'impermutation des lettres. Donc, et c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. C'est comme ça que la Torah se comprend. Donc, nous sommes à une époque, donc avant la traduction grecque de la Torah, nous sommes à une époque où pratiquement la lecture de la Torah, ceux qui l'entendaient, ceux qui la lisaient, avait une perception de ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est pratiquement une perception inspirée, prophétique, de compréhension profonde de chaque lettre, de chaque syllabe, de chaque mot. Donc, c'est une compréhension profonde, extrêmement, extrêmement lumineuse. Donc, il suffit, et c'était donné facilement à la compréhension. À l'époque où la Torah est traduite par Ptolémée. Le Ptolémée demande la traduction de la Torah. Il y a ici un abaissement de la compréhension. Le niveau de la compréhension de la Torah se rabaisse, et comme la lumière est puissante et elle tombe, donc elle s'habille dans des enveloppes. Et d'ailleurs, le seul fait de traduire, alors ce qui est contenu dans les lettres, le guinat que nous avons expliqué est perdu, puisqu'il ne reste que le récit. La narration du récit, l'histoire. Donc on a réduit la Torah à une histoire banale. Donc on peut lire des passages de Torah où on voit que c'est la Torah raconte des événements banals. Abraham est monté sur l'âne, etc. Des choses banales. L'histoire de Yosef et de ses frères. Bon, c'est pas extraordinaire. Où est la lumière dans tout ça? Donc nous n'avons pas accès. C'est cette part-là qui a été retirée, qui a été enfouie. Et c'est du fait de la traduction. En vérité, la traduction de la Torah indique qu'il ce n'est pas seulement du fait de la traduction que c'est comme ça. C'est que l'époque est telle que à un moment donné de l'histoire, la Torah a perdu cette partie, sa dimension lumineuse. Et la lumière s'est enveloppée et s'est enveloppée s'est cachée dans des revêtements extérieurs qui nous permettent pas d'atteindre la véritable luminosité qui est contenue dans le texte. Et alors, pour comment y pénétrer, il faut faire énormément d'efforts. Donc on voit ce que nous avons perdu si nous savons interpréter le sens que Yosef donne à ses paroles, ainsi qu'il indique à ses frères, nous comprenons à présent que cela a été retiré. La traduction de la Torah nous a fait perdre cette dimension-là. Et nous avons dit qu'il y a trois dimensions, ginnat. C'est pour ça que, pour chacune d'entre elles, ces pertes, la gmataria, le notaricon, l'acronyme et la terumura, a été perdu. Donc c'est vrai qu'il y a eu trois jours d'obscurité. Pour chaque élément lumineux de la Torah, il y a un jour d'obscurité. Et c'est ça le sens pratiquement de la descente, la perte de la compréhension. Donc c'est ça le concept de l'obscurité qui a été. Le monde s'est enveloppé d'obscurité de par le fait de la traduction. Parce que dans la traduction, de la traduction, il ne reste que le texte, que le sens, l'histoire. Tout le reste est perdu. Le Ramchal dit dans Derech Etz Hachaim que l'écriture de la Torah, chaque lettre est une lumière. Chaque lettre est une lumière. Et il dit, ne pense pas que c'est, quand nous disons que chaque lettre est une lumière, que c'est au sens figuré. Et il dit que véritablement, chaque lettre est un contenant, contient une braise, c'est une braise lumineuse sur laquelle il faut souffler et qu'il faut enflammer. Donc c'est grâce à l'effort de la lecture, on lit, on relit, on essaie de comprendre, on essaie d'interpréter, on essaie de donner un sens au texte. Tout ça, c'est enflammer le texte jusqu'au moment où cette braise-là s'enflamme et devient lumineuse. Et donc la lumière est contenue, c'est pour cela, nous dit-il, que si une lettre est mal écrite ou coupée, alors tout le Sefer Torah, il faut réparer, tout le Sefer Torah n'est plus utilisable, il faut le réparer. Alors que nous pouvons être dans Sefer Bereshit et que la faute, ou la lettre effacée ou coupée, et à la fin de la Torah. Donc on ne lit pas ce morceau-là. Malgré tout le Sefer Torah, c'est comme un système qui est harmonieux, qui est lié, un système qui est lié, les éléments sont liés entre eux. C'est ça le sens de 8, c'est ça la gravité du jour du 8 Tevet. Le 9 Tevet, c'est, dans Shulchan Aruch c'est marqué, on ne sait pas pourquoi on jeûne. C'est aussi le 9 aussi est un jour où il convient de jeûner. Mais nous dit le Shulchan Aruch, on ne sait pas pourquoi Chachamim ont fixé ce jour-là. Et dans les Midrashim, il dit que c'est le jour du décès de Ezra Sofer. Ezra Sofer, la valeur de ce qu'il a fait, Raoui Aya Ezra Shitinaten Torah Aliado. Donc Ezra, c'est le retour des exilés, le deuxième début du deuxième temple. Il décède en 3448. La même année, il décède le 9 Tevet 3448, la même année où sont décédés les trois derniers prophètes, Haggai, Zécharie ou Malachi. Donc on remarque que 3448, c'est exactement 1000 ans après Elef Shana, après le matin de Torah. Donc il y a 1000 ans de prophétie. Et là, le Seder HaDorot dit, la Baraita du Seder HaDorot dit, « Adkan divrei Neviut ». Jusqu'à présent, la Torah parlait comme si qu'elle était prophétique, les paroles des prophètes. À partir de là, il s'agit de tendre l'oreille. « Sim oznecha kafar keset ushma divrei chachamim ». À partir de là, 3448, la disparition de Ezra, la disparition des trois derniers prophètes, à partir du moment où tends ton oreille comme un entonnoir, écoute avec attention et avidité les paroles des sages. Les Chachamim, c'est le départ d'une nouvelle conception de l'étude qui est le Drush. Les Chachamim vont commencer à commenter le texte pour en faire jaillir la lumière. La prophétie ayant cessé. Ça, c'est le 9. Et c'est ça la dimension du deuxième temple. 3448, c'est le début de la prise de fonction de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il devient Kohen Gadol à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Alexandre le Grand. Et Shimon HaTzadik est Mishiere Knesset Agdola. Il est le dernier, le successeur des membres de la Grande Assemblée. C'est-à-dire que dans cette assemblée-là, il y avait nombre de prophètes. Des prophètes étaient des Chachamim particulièrement nobles, sublimes, d'une savoir sublime, et les prophètes. La prophétie s'arrête, et à partir de là va commencer le Drush. Shimon HaTzadik, il va devoir affronter la génération de Shimon HaTzadik va devoir affronter la Chochma des Grecs. Et c'est ça la démarche des Chachamim. Donc nous voyons à présent que combien le texte de la Torah il est du devoir de chacun de lire le texte, de l'approfondir, d'essayer de le comprendre de telle sorte que les lumières qui ont été tamisés ou qui ont été voilés, rejaillissent. Comme avant, mais d'une autre manière. Donc, c'est-à-dire qu'avant cela, il suffisait de lire le texte de la Torah ou de l'entendre pour véritablement être imprégné de la lumière contenue dans le texte. Et donc, on faisait plus attention tellement à l'histoire, mais on comprenait le sens profond qui était les différents sens. Donc c'est comme si que la personne était imprégnée d'un esprit prophétique. C'est-à-dire que l'esprit prophétique du lecteur, celui qui lit la Torah, il fait jaillir la lumière contenue comme si qu'il était un prophète et qu'il disait les choses du dévoilement de la présence de Dieu. Celui qui entendait était imprégné immédiatement de cette valeur-là, de cette lumière. Ça a été perdu, et c'est le moment de s'affairer, se plonger dans l'étude, de telle sorte de retrouver cette lumière, faisant en sorte de retrouver la lumière contenue dans la Torah. Et c'est ça la véritable dimension de l'étude. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.